9h36, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit ce matin Émilie Perrault, qui nous arrive avec son nouveau livre, « Service essentiel ». C'est dans la foulée de faire œuvre utile, bien sûr. Mais là, c'est quand même costaud. C'est-à-dire que c'est une... Ben, costaud dans le sens pour convaincre les gens. C'est-à-dire, on comprend qu'il y a des œuvres, des livres, des films qui marquent quelqu'un. Mais là, c'est une approche autre. C'est-à-dire, ce que tu dis aux gens, dans le fond, que ce soit un livre, de la musique, une œuvre d'art, ça peut vous aider sur le plan de la santé, pas juste de la santé morale.
Oui.
Expose ta thèse.
Là, je veux pas avoir l'air de Lucien Bouchard qui vous dit « Lisez, là! »
Non.
Mais c'est un peu ça quand même. J'ai voulu aller un petit peu plus loin que faire œuvre utile. Dans faire œuvre utile, j'allais rencontrer des gens qui me racontaient comment une chanson, un livre a changé leur vie. Et tout ça, c'est du ressenti. T'sais, on le sait que ça nous fait du bien, mais après, la question, c'est pourquoi et comment? Et il y a ça dans Service essentiel. Donc, je suis vraiment allée à la recherche de preuves scientifiques, des études qui démontrent concrètement qu'est-ce qui fait, par exemple, que la lecture, ça a un impact au niveau cognitif. Donc, je suis allée chercher des preuves peut-être un petit peu plus costaudes, mais après ça, j'ai voulu élargir, j'ai voulu parler aussi de politique, d'économie, d'éducation, juste pour qu'on change un peu notre perspective sur l'art, parce que souvent, la culture, c'est le truc qu'on va faire à la fin de la semaine. S'il nous reste un peu de temps, c'est pas prioritaire. Puis moi, je veux qu'au contraire, on change un peu notre façon de voir, comme avec l'activité physique. Tout le monde le sait que c'est bon à tous les jours, on devrait bouger un peu. Bien, c'est la même chose pour la culture. On devrait lire, on devrait écouter de la musique et se rendre compte que ça a un impact direct sur notre humeur, sur notre santé physique aussi. Donc, c'est vraiment une espèce de petite révolution dans la façon de penser à la culture.
Tu cites beaucoup d'études, de recherches qui se sont faites au fil des ans. Donne aux auditeurs un exemple. Tu dis, voici ce qu'on pensait pas, puis il y avait même peut-être un préjugé, puis on a découvert finalement que ça pouvait avoir un effet plus que bénéfique.
Mais tu sais, la musique, là, ça peut être de l'automédication directement. Là, ça a un véritable impact sur ton humeur. Donc, il y a des études qui ont démontré que de bâtir ta propre playlist de musique, de prendre le temps d'écouter une chanson, de voir qu'est-ce qu'elle te fait, mais si tu te bâtis ces listes de lecture-là, puis ensuite tu les écoutes au bon moment, bien, ça peut complètement changer ta façon d'être. Donc, ça peut avoir un impact sur ta productivité, par exemple. Si je le ramène dans un point de vue Pierre-Yves McSween, là, de la patente. Au niveau de l'économie, ce que je dis, c'est que plutôt que de voir ça comme une dépense, ça peut être un investissement à la culture. La Corée du Sud, là, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Puis donc, on connaît, nous, la Psy, puis BTS la K-pop. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un moteur économique incroyable pour eux. Donc, dans plein de sphères, on a tout le temps l'impression qu'on laisse ça de côté. Mais finalement, si tu t'y attardes, on l'a vécu dans la dernière année, les arts vivants, ça nous a manqué. Pourquoi ça nous a manqué autant? Regarder un spectacle à travers un écran, ça reste quand même les mêmes notes de musique qui sont jouées.
Mais il n'y a pas cette proximité-là, il n'y a pas cette présence-là.
Il y a une empathie physiologique qui s'opère quand on est dans la même salle. Donc, tu sais, à partir du moment où tu accordes une espèce de crédibilité à tout ça, bien, je trouve que ça vient meubler ton quotidien d'une autre façon.
Il y a un exemple que tu donnes, il y en a beaucoup dans le livre, puis il y en a un sur lequel j'ai accroché un peu plus.
Vas-y.
Il y a beaucoup de tunes déprimantes. Tu sais, des chansons, là, t'écoutes ça, là, tu dis, bien, ça peut pas être bien bon pour le moral. Je sais pas, moi, quelqu'un qui a vécu une peine d'amour, tu vas pas écouter ça, mais il me semble que c'est pire, c'est comme jouer dans le bobo. Et tu racontes l'histoire, tu étais au Salon du livre, je pense, d'une lectrice qui est venue te voir puis qui t'a raconté son lien avec une chanson puis à quel point elle broyait sa vie, mais c'était en même temps positif pour elle.
Oui, c'est ça, ça nous permet, puis on l'a tous ce réflexe. Ça me semble quand ça va mal, là...
Tu veux pas entendre Safia Nolin quand ça va mal, tu te dis... Ben, en tout cas, ça dépend du monde. Là,
oui, mais en même temps, c'est ça qui est particulier, c'est qu'on a un peu le réflexe de le faire, puis c'est sûr que si tu le fais à long terme, tu peux tomber dans un spleen, mais... La première étape, il y a des études scientifiques qui l'ont démontré, c'est-à-dire que qu'est-ce que les gens ressentent après avoir écouté une chanson triste quand eux-mêmes sont tristes? C'est pas de la tristesse qu'ils ressentent, c'est de la sérénité. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus seuls. Il y a quelqu'un qui les comprend, puis même que parfois, la toune est pire que ce qu'ils vivent. Fait que là, tu te compares, puis tu dis « Ah, c'est pas si pire que ça, et au moins, il y a quelqu'un d'autre qui me comprend. » Alors, c'est sûr que si... tu ne fais que ça pendant un an, ça se peut que ton moral ait un peu moins. Mais par contre, si pendant 45 minutes, tu te permets d'écouter quelques chansons tristes qui t'ont permis de purger ta peine, bien après, il y a bien des chances que tu sois plus léger. Et c'est vrai que c'est contre-intuitif, parce que là, on va se dire, hey, quand ça va pas bien, je vais écouter Mojito, Mojito, là, puis un peu de Laurie Leblanc, puis je vais me remettre de bonne humeur. Mais Ça, ce serait...
ça dépend des gens aussi, là,
ça
c'est
dépend
sûr,
des gens, mais moi, je pense qu'il faut faire attention de ne pas tricher ça parce qu'il y a aussi des émotions négatives qui ont besoin d'être vécues. Puis je pense que l'art, parfois, nous permet d'aller purger ça. Donc, ce qui fait qu'on va se sentir bien, même après avoir écouté un film, par exemple, qui est triste. C'est juste que si tu n'as jamais d'espace où tu peux les vivre, ces émotions-là, bien, ça continue de jouer, ça s'accumule. Puis, j'ai pas besoin de te le dire, au niveau de la santé mentale, on l'a vu dans les dernières années, c'est une véritable problématique. Puis moi, je pense que autant que pour avoir un corps sain, il faut faire de l'activité physique, bien, pour garder un esprit sain, je pense que c'est vraiment notre consommation de culture qui peut avoir un impact.
Et là, tu vas jusqu'à dire que, par exemple, la musique peut provoquer autant de plaisir qu'un orgasme sexuel.
Là, c'est pas moi qui dis ça,
non,
pas
mais
je cite des exemples.
Cite.
Mais oui, ça va jouer dans les mêmes parties. Puis à Montréal, on est vraiment spécialisé dans ce type d'études-là. Entre autres, à l'Université McGill, il y a un chercheur qui s'appelle Daniel Levitin, puis il y en a plusieurs autres qui l'ont cité avant moi, mais effectivement, ça va jouer dans les mêmes zones. Donc lui, il dit sexe, drogue et rock'n'roll. C'est-à-dire qu'il a démontré à travers ses études que c'est les mêmes zones du cerveau qui vont être stimulées quand tu écoutes ta chanson préférée. Ça va jouer dans les mêmes zones qui sont stimulés quand, par exemple, on a une relation sexuelle ou quand on consomme de la drogue. Donc, le plaisir qu'on peut ressentir à écouter notre chanson préférée, bien, ça va jouer dans les mêmes zones. Je ne dis pas que ça peut remplacer, mais imagine si tu fais les deux en même temps, c'est-à-dire que si tu as une relation sexuelle en même temps que tu écoutes ta chanson préférée...
Et la
préférée,
musique permet une chorégraphie, dis-tu.
Bien, il y a un rythme qui peut... là, je ne vais pas vendre toutes les punches.
Non, mais... oui. Mais là où j'ai trouvé l'approche intéressante, c'est-à-dire que... dans l'arsenal, si on veut, c'est un mot à la mode, la boîte à outils, là,
oui, c'est ça.
Que d'inclure l'achat d'un livre ou de la musique ou d'aller au théâtre ou dans un musée, dans le cadre d'une démarche plus générale, je suis à peu près convaincu que ça marche, moi aussi. Là.
Mais oui, puis comme je te dis, le problème, c'est que souvent, c'est l'affaire qu'on fait à la fin de la semaine, s'il nous reste du temps, alors qu'on devrait le planifier. C'est prouvé, par exemple, juste le fait d'acheter une paire de billets pour un spectacle d'humour, par exemple, juste au moment où tu achètes les billets, tu as déjà 40% des bienfaits parce que tu anticipes d'avoir une soirée où tu vas avoir du fun, parce que, par exemple, tu vas voir ton humoriste préféré, mais en plus, probablement que tu es accompagné de quelqu'un que tu aimes. Donc, d'en faire un rendez-vous, c'est pour ça que l'abonnement est une option qui est intéressante parce que souvent, ce qui arrive, c'est que... Puis moi, j'ai été journaliste culturelle ici pendant des années. Je sais c'est quoi. T'es chez vous puis t'as pas le goût de sortir. On n'a pas le goût de le faire.
C'est pas le bon soir, là,
tu sais. Ça me tente pas. Puis une fois que t'es rendu là, finalement, t'as bénéficié de ta soirée.
On va s'arrêter pour une très courte pause. J'aimerais ça entendre les gens partager peut-être quelques expériences qu'ils ont eues de cette nature-là. Tu sais, de dire... j'étais dans une mauvaise passe, puis telle toune a eu un effet positif, ou je suis allé au théâtre, ou j'ai vu un film, peu importe. Juste partager avec nous un peu. Le numéro de téléphone, 514-790-9850, 514-790-9850. Je suis convaincu qu'il y a un livre, une histoire, un film, une chanson, une pièce musicale qui a peut-être eu cet effet positif sur vous. 514-790-9850.